Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+, compile de la chronique Fake News.
6 heures avant minuit,
6 heures avant minuit.
Tu restes avec nous, Lafkian, parce que ce soir, c'est toi qui présente la chronique Fake News, qui décortique une fake news tous les mardis.
Et oui, aujourd'hui, on se demande, les clones prennent-ils le contrôle du monde ? Vous vous rappelez sûrement des rumeurs sur la doublure de l'acteur américain Jim Carrey en février ? Eh bien, la semaine dernière, c'est Benjamin Netanyahu qui a accusé d'être mort et remplacé par une intelligence artificielle. En fait, jeudi, le Premier ministre israélien a donné une conférence de presse sur la situation en Iran. Benjamin Netanyahu en a ensuite publié un extrait sur X, dans lequel il expliquait vouloir frapper l'Iran avec force. Mais détail, certains internautes ont affirmé que sur la vidéo, l'homme d'État aurait 6 doigts et non 5. Des dents lui manqueraient également. Là, les captures d'écran se sont multipliées sur les réseaux sociaux, accompagnées d'une théorie. Benjamin Netanyahu serait mort et la conférence de jeudi a donc été tenue par une IA. Des rumeurs qui ont été relayées par certains médias iraniens comme Iran News. Des images générées par IA représentant Benjamin Netanyahu sous des décombres ont aussi été partagées sur Internet. Selon la plateforme de veille VisiBrain, le sujet a suscité plus de 236 000 messages en 5 jours. Bien sûr, de ce que l'on sait, il s'agit d'une intox. Pour mettre fin aux théories, le Premier ministre a posté une nouvelle vidéo dimanche sur X. On y voit Benjamin Netanyahu devant un comptoir siroter un café crème. Il y argumente notamment qu'il n'est pas généré par IA, sauf que la vidéo a eu l'effet inverse. Les utilisatrices et utilisateurs de X y ont vu une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Leur principal argument, lorsque vous mettez cette vidéo de Benjamin Netanyahu au café dans un détecteur d'IA, il vous répondra que la vidéo est fake. Une preuve suffisante pour relancer le récit selon lequel le Premier ministre a été tué ou au moins défiguré lors de frappes iraniennes. Plus que cela, l'intelligence artificielle de X, Grok, a elle-même affirmé que la vidéo était fausse. Mais en réalité, il y a peu de chances pour que les postes du Premier ministre israélien aient été manipulés. Selon l'équipe de vérificateurs de TF1, la société spécialisée dans la détection de contenu IA GetReal Security et le chercheur en falsification d'images Quentin Bamet, la vidéo du café est vraie. Pour eux, l'alerte est à donner du côté des détecteurs d'IA pour le grand public, souvent peu fiables. Si des sachets de thé semblent bouger ou des personnes disparaître sur les images, tout a été analysé pour en déduire qu'il s'agit simplement d'illusions d'optique ou de modifications faites par les internautes sur des captures d'écran. Finalement, le problème, c'est surtout que 30 à 40% des images du conflit au Moyen-Orient ont été générées par IA selon un institut spécialisé cité dans les Échos, des intox qui se propagent paisiblement sur X et d'autres réseaux sociaux. Alors comme toujours, pensez à vérifier vos sources avant de relayer un fait, surtout à une période où la désinformation prend la forme d'un jeu. Sinon, votre info fera la une de notre chronique Fake News.
Merci beaucoup Lafkian, qui a été peut-être remplacé par un clown, on ne sait pas. T'as pas de casquette aujourd'hui, c'est suspect.
6 heures avant minuit.
Qu'est-ce qu'on a ce soir ? Eh bien, une chronique fake news. Qu'est-ce que tu vas nous fact-checker ce soir, Estelle ?
Voilà qu'une épidémie refait surface. Et avec elle, une vieille rengaine, on nous cache tout. Une phrase qu'on a déjà beaucoup entendue pendant le Covid et qui revient aujourd'hui en force sur les réseaux sociaux.
Ok, aujourd'hui, ils nous cachent tout. C'est comme le Covid. Ils ont attendu qu'il y ait v'là les morts pour déclarer que oui, il y a le Covid. Et aujourd'hui, ils nous font pareil.
Sur TikTok, cette vidéo fait le buzz avec plus d'1,5 million de vues. Une jeune mère de famille y raconte très émue la mort de son enfant qu'elle attribue à une méningite survenue en février. Face caméra, elle accuse les autorités sanitaires et les médias de minimiser la situation.
Aujourd'hui, je vois des vidéos sur Internet qui vous disent qu'il y aurait qu'un seul cas sur Paris et qui sont en train de le gérer, ce n'est pas vrai, les amis, d'accord ?
Bouleversée, elle affirme que son fils ne serait même pas comptabilisé parmi les victimes. Elle appelle aussi ses abonnés à ne plus faire les aveugles.
Et personne ne vous dit rien. Aujourd'hui, je mets des commentaires sur les vidéos que je vois pour déclarer ce qui se passe et on supprime mes messages, d'accord ? Alors les gars, arrêtez de faire les aveugles. Vous voyez les choses, republiez-les. Arrêtez de faire les moutons parce qu'aujourd'hui, ils se foutent de nous, d'accord ?
Dans les commentaires, elle va encore plus loin, en estimant que les autorités cachent cette information. Parce que, je cite, « nous sommes simplement des pions un peu trop nombreux, laissant planer le doute sur une opération orchestrée. » Je cite de nouveau, « personne n'en parle dans les médias, ils attendent que ça prenne des proportions pour pouvoir en parler. » écrit un autre internaute, quand un troisième pense même que le plan d'un confinement serait en cours d'élaboration.
Alors forcément une question se pose, y a-t-il aujourd'hui une épidémie de méningite en France ?
La réponse est non. Sur Vérif de TF1, le professeur Mohamed Kihir Taha est catégorique. Ce spécialiste de l'Institut Pasteur rappelle qu'une épidémie, ce n'est pas juste plusieurs cas isolés. Il faut une hausse significative et d'une même souche. Or, aujourd'hui, aucun de ces critères n'est rempli. Mieux encore, les cas sont en baisse. Je cite, « dans les trois premiers mois de 2026, nous avons à peu près 20% de cas en moins par rapport à la même période l'an dernier », pointe-t-il du doigt. Concernant la rumeur, elle s'appuie sur une alerte bien réelle de Santé publique France publiée jeudi dernier. Mais celle-ci est déformée. L'agence a bien signalé un cas lié au cluster déclaré dans la région de Canterbury et qui affole le Royaume-Uni. Cet étudiant était en effet de retour d'Angleterre où sévit actuellement une épidémie, note l'agence dans son point de situation. Mais attention, ça ne veut pas dire que la France est touchée par une épidémie. Et surtout, le cas du petit garçon ne peut pas être lié à cette épidémie, dont l'origine serait un événement en boîte de nuit entre le 5 et 7 mars, et que lui, il est décédé début février. Alors oui, la méningite reste une maladie grave, mais non, il n'y a pas d'épidémie dissimulée. Et en revanche, si vous avez ces symptômes, raideur de la nuque, forte fièvre, nausée, fatigue intense ou apparition de taches violacées, je suis pas médecin, mais on panique pas et on consulte rapidement. Sur ce, moi je retourne décrypter les prochaines fake news.
Merci beaucoup Estelle.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
C'est mardi, c'est chronique fake news. Aujourd'hui, Romane nous parle du rapport des Français et Françaises aux faits.
Aujourd'hui, on parle de fake news et mauvaises nouvelles. Visiblement, on est des mauvais élèves. Selon un sondage IFOP publié le 18 mars dernier, les Français et Françaises sont largement désarmés face à la désinformation. Pour le mesurer, un quiz a été proposé à 2000 personnes et la moyenne générale est de 5,4 sur 20. Oui, 5,4 sur 20, donc autant dire qu'on est plus proche des redoublements que des félicitations. Et surtout, près de 9 Français sur 10 n'atteignent pas la moyenne.
Alors pourquoi d'aussi mauvais résultats, Romane ?
Ce qui fait chuter les notes, ce sont les questions sur l'intelligence artificielle. Par exemple, seulement 3% des personnes interrogées ont réussi à distinguer de vrais visages de visages générés par IA. Dans l'exercice, il y avait deux visages authentiques et deux faux. Et l'indice, des zones de flou autour des visages artificiels, un défaut typique de l'IA. Mais ça, la grande majorité ne le repère pas. Même difficulté pour les articles générés par l'intelligence artificielle, 60% des sondés pensent qu'une simple mention écrite par une IA suffit à prévenir les lecteurs et lectrices, sauf qu'en réalité, elle est rarement indiquée.
Mais alors, est-ce qu'on est complètement foutu ?
Pas totalement, parce que les Français et Françaises semblent mieux comprendre les mécanismes de la désinformation. 7 personnes sur 10 savent que les réseaux sociaux ne sont pas les contenus les plus fiables, qui circulent le plus, mais ceux qui font le plus réagir. Et 60% connaissent la notion de biais cognitif, ces mécanismes de pensée qui déforment notre jugement.
Un autre point intéressant dans ce sondage, tout le monde est concerné.
Oui, peu importe l'âge, le niveau d'études ou la profession, aucune catégorie n'obtient la moyenne. Même si sans surprise, les plus jeunes s'en sortent un peu mieux, les 18-24 ans tournent autour de 7 sur 20 contre 5 sur 20 pour les plus de 65 ans. D'autres facteurs jouent aussi, comme le niveau d'études ou le positionnement politique. Les personnes proches des écologistes obtiennent les meilleurs scores autour de 8 sur 20. Alors conclusion, aujourd'hui face aux fake news, on n'est pas complètement naïf mais clairement pas assez armé. Et avec une intelligence artificielle qui progresse très vite, la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue. Autrement dit, vérifier une information, ce n'est plus une option mais c'est devenu une nécessité.
Merci pour ce message d'intérêt général, Romane Hubert.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
tu restes avec nous, Léonore, parce que c'est mardi, c'est Chronique Fake News, et c'est toi qui t'en es occupée ce soir.
Et oui, sans grande surprise, Elon Musk ne s'est pas présenté lundi devant le parquet de Paris. Il était attendu par la section cyber et devait être entendu en audition libre après une enquête française commencée en janvier 2025 sur son réseau social X. Vous vous en doutez, celle-ci n'a pas fait plaisir aux multimilliardaires. Pour rappel, des perquisitions ont eu lieu en février dans les bureaux français de X. Elon Musk n'avait pas hésité à réagir, les qualifiant d'attaque politique. Le parquet a réagi à l'absence du CIO de l'entreprise en assurant en prendre acte. Celle-ci n'est pas un obstacle à la poursuite des investigations. L'ex-directrice générale Linda Iaccarino ainsi qu'une dizaine d'autres cadres ont également été convoqués. Les auditions libres se poursuivent jusqu'à vendredi. L'enquête portait initialement sur des soupçons de manipulation de l'algorithme. Elle faisait suite à un signalement des députés Éric Botrel de Renaissance et Arthur Delaporte, parti socialiste. Une potentielle utilisation illicite de données personnelles à des fins de publicité ciblée était également surveillée. Elle s'est rapidement élargie, comme l'explique le parquet de Paris dans un communiqué de presse. Principal objet de l'enquête aujourd'hui, Grok, l'intelligence artificielle du réseau social X.
En effet, Léonore, message antisémite et négationniste, deepfakes à caractère sexuel, il me semble que Grok continue de faire parler d'elle.
Et oui, depuis sa mise à jour à la fin du mois de décembre 2025, l'IA génératif peut désormais modifier des images. L'arrivée de cette fonctionnalité a donné lieu à la production de plus de 3 millions d'images à caractère sexuel. Selon l'ONG Center for Countering Digital Hate, parmi ces contenus figurent des deepfakes, c'est-à-dire des images réelles modifiées par intelligence artificielle, mais aussi près de 23 000 images pédopornographiques. Des productions bien évidemment interdites dans le monde entier. Elon Musk s'est d'ailleurs exprimé le 14 janvier dernier, annonçant avoir pris des mesures techniques pour empêcher Grok, je cite, « d'autoriser la modification d'images de personnes réelles en tenue suggestive ». L'enquête française a néanmoins agrégé des faits possibles d'atteinte à la représentation de la personne. Le parquet estime que la plateforme X a délibérément tardé à prendre des mesures pour limiter l'apparition de ses contenus sexuels. Si 4 mois plus tard, le nombre de fausses images sexuelles a diminué, nos confrères de NBC News en ont tout de même retrouvé une douzaine entre mars et avril.
Et justement, pour enquêter sur ces dérives, qu'est-ce qui a été mis en place ?
Alors, pour déterminer le degré de responsabilité de la plateforme, la section de lutte contre la cybercriminalité a pu compter sur l'aide de plusieurs experts en intelligence artificielle. Il a également demandé l'accès au code et à l'algorithme de la plateforme.
Et j'imagine que l'enquête n'a pas été de tout repos.
Eh bien non, encore une fois, le parquet français n'a pas vraiment pu compter sur la plateforme X. Elle a refusé de fournir certains éléments permettant d'identifier des usagers ayant utilisé Grok pour diffuser des contenus négationnistes et antisémites. L'enquête reste donc tendue entre son dénigrement par le PDG de X et les puissants qui s'en mêlent.
C'est-à-dire ?
Si les relations entre Elon Musk et la Maison-Blanche sont moins fortes que l'an dernier, l'ombre de Washington reste présente. L'un des deux députés à l'origine du premier signalement a par exemple été retiré en février de la liste des visiteurs pour une visite parlementaire de la Maison-Blanche. Le ministère américain a également refusé son aide au procureur français. Le département de la justice américaine a quant à lui qualifié le 18 avril dans le Wall Street Journal l'enquête de criminelle orientée politiquement et destinée à réguler illégalement les activités d'un réseau social. Un avis partagé par le fondateur du réseau Telegram. L'enquête continue malgré les pressions. La demi-douzaine de chefs d'accusation portés par l'institution française sont scrutés à la loupe.
Merci Léonore, à bientôt.
Syllabe, il est midi, la radio sauvage. Minuit.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La chronique du mardi, c'est décryptage fake news. Et aujourd'hui, on parle IA et désinformation. Effectivement, le nec plus ultra de l'IA française est à la botte de régime autoritaire, il paraît. Cette information a été révélée ce matin par le quotidien Les Échos. Et au cœur de ces révélations, la start-up Mistral, fierté bleu-blanc-rouge en matière d'intelligence artificielle, et plus particulièrement son robot conversationnel qui s'appelle Le Chat. Alors figurez-vous que le petit félin numérique diffuse de la propagande russe plus de la moitié du temps. L'entreprise hexagonale termine dernière dans un classement de 11 outils d'intelligence artificielle audités par l'organisation américaine NewsGuard. Elle est spécialisée dans l'évaluation de la fiabilité des médias et des outils numériques. L'audit a en fait été publié en janvier, mais on n'en prend connaissance qu'aujourd'hui. Alors sur les 11 robots conversationnels testés, parmi lesquels ChatGPT, Claude, DeepSeek ou Perplexity, on établit en moyenne 30% de diffusion de fake news. Mistral explose les chiffres avec 50% de fausses informations relayées en anglais et 57% en français, le tout sans correction ni mise en garde.
Pour tester le chat, NewsGuard a discuté avec sa version gratuite. L'entreprise lui a présenté 10 fausses informations en utilisant 3 profils d'utilisateurs. Une personne neutre, une personne vérificatrice et une personne propagatrice d'infox. Les infox en question, une épidémie de typhus sur le porte-avions Charles de Gaulle, des centaines de soldats américains tués en Iran ou encore le chancelier allemand prétendument propriétaire d'un avion nucléaire. Résultat, le profil du vérificateur, donc celui qui cherche à savoir si une information est réelle, reçoit le plus de réponses erronées. Dans une discussion avec ce profil, le chat répète les infox dans 60% des cas en anglais et 70% des cas en français. C'est donc quand les internautes lui font le plus confiance que l'IA est la moins fiable. Parmi les sources utilisées par le robot, Storm 1516, réseau russe spécialisé dans la création de faux sites d'infos, mais aussi Pravda, un ensemble de 150 sites pro-Kremlin basés à Moscou. Ces réseaux inondent le web de fake news et donc aussi les données d'entraînement et les sources consultées par l'IA. L'IA qui va chercher des sources sur Internet sans pour l'instant vérifier ses sources. Là, on a encore besoin des humains et humaines pour ça. Et s'il y a un meilleur score en anglais, c'est parce qu'il y a plus de ressources anglophones et plus de contenu de fact-checking qu'en français. Mistral revendique plus d'un million d'utilisateurs et utilisatrices réguliers. La firme a aussi conclu un contrat avec le ministère des Armées en France, de quoi légitimer le produit et donner l'impression au public qu'on peut lui faire confiance. Ce n'est pas le cas, alors méfiez-vous, croisez vos sources quand vous vous informez. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique fake news.
6 heures avant minuit.
C'est mardi, c'est l'heure de la chronique fake news. Aujourd'hui, on parle de Pascal Pro qui diffuse une fausse une du magazine Closer en direct sur CNews. Ça s'est passé hier matin dans l'heure des pros et Léonore nous en parle.
Et oui, en effet, l'un des animateurs vedettes de la bolosphère a fait réagir ses chroniqueurs en plateau, mais sur une couverture créée par l'IA. Le hic, elle a été présentée comme complètement authentique. Sur le plateau, certains ont eu des doutes, mais Pascal Pro a rassuré sur la fiabilité de cette une.
Et cette soi-disant couverture, qu'est-ce qu'elle montre ?
Alors sur l'image, on retrouve côte à côte et souriante Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Najah Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation et présidente de France Terre d'Asile. Elles portent toutes les deux un ensemble en jean bleu clair, une tenue inhabituelle que Pascal Pro souligne d'ailleurs, sans plus se poser de questions. Cette fausse couverture sert ensuite à animer le débat. La discussion s'oriente rapidement autour du rôle politique de Yael Braun-Pivet. Un des chroniqueurs s'appuie sur la couverture pour assurer l'envie de la présidente de l'Assemblée nationale de dire, je cite, « Regardez, je suis un peu de gauche ».
Est-ce qu'on a des pistes de l'origine de cette fake news ?
Alors, si on sait que la couverture a été largement relayée sur les réseaux sociaux, l'auteur n'est pas pour l'instant connu. Selon une source de l'AFP proche de Yael Braun-Pivet, les deux femmes auraient été photographiées ensemble mercredi dernier. C'était à l'occasion de la projection du film Woman d'Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. Il serait donc possible que l'image générée par l'IA soit inspirée de ce cliché. Par contre, contrairement à ce qui est présenté sur la fausse une de Closer, pour l'événement, Yael Braun-Pivet était vêtue d'un tailleur pantalon.
Comment réagissent les personnes concernées ?
Yael Braun-Pivet a pris la parole dans une vidéo publiée sur ses réseaux l'après-midi de l'émission et elle dit cela.
Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier. Face à la désinformation, soyons tous responsables, soyons tous vigilants.
Elle a également décidé de saisir l'ARCOM, l'instance qui régule l'audiovisuel français. Pascal Pro, lui, s'est excusé sur X, prononçant son mea culpa.
Est-ce que c'est la première fois que CNews relaye des fake news ?
Eh bien non, et c'est justement ce qui pose encore plus problème. Le travail journalistique repose sur la vérification des sources, et encore une fois, elle n'a pas été faite correctement. Si ici l'affaire est politique, le constat est partout. On peut prendre l'exemple de l'écologie. L'Observatoire des médias sur l'écologie a recensé 665 cas de désinformation climatique en 2025. Parmi les chaînes les plus concernées, on retrouve celles proches des sphères d'extrême droite. Parmi celles-ci, CNews est sans surprise parmi les plus touchées.
Merci Léonore.
6 heures avant minuit.
Aujourd'hui, Léonore, tu ne vas pas parler d'une personne, mais plutôt d'une stratégie qui prend racine à l'extrême droite. Cette stratégie, c'est la réinformation. Pour commencer, qu'est-ce que veut dire ce terme ?
Alors la réinformation, c'est un concept assez simple. C'est le fait de transmettre une idéologie d'extrême droite dans des écrits présentés comme journalistiques. Le but, c'est de décrédibiliser les médias traditionnels pour imposer une lecture du monde orientée politiquement. C'est une tactique propre à la fachosphère.
Ce mot vient donc de l'extrême droite.
Oui, le mot réinformation, il apparaît en novembre 1997. C'est Bruno Maigret qui le popularise lors d'un colloque du Conseil scientifique du Front National sur l'information. À l'époque, il est numéro 2 du parti aux côtés de Jean-Marie Le Pen.
Maintenant qu'on a compris l'origine et la signification de ce mot, la réinformation en pratique, ça donne quoi ?
Alors, il existe beaucoup de sites de réinformation, plus ou moins identifiés par le public. Parmi eux, on retrouve par exemple Braise Info en Bretagne. Au niveau national, F de Souche, créé en 2005, est considéré comme l'un des piliers français de la réinformation. Ces sites, ils reprennent des codes médiatiques classiques. Les interfaces et la structure des articles peuvent sembler assez basiques de loin. C'est justement ça qui brouille les frontières entre écrit journalistique et propagande politique. Pour Erwan Le Gall, qui a étudié le sujet, ce qui différencie les sites de réinformation des médias journalistiques, c'est leur utilisation du journalisme de lien.
Et c'est quoi ça, le journalisme de lien ?
Pour résumer simplement, c'est le fait de reprendre et de relayer des informations publiées dans d'autres médias. C'est une notion popularisée en 2007 par Jeff Jarvis. Pour les sites de réinformation, le fait de republier des contenus issus de médias d'extrême droite montre qu'ils adhèrent à leur ligne éditoriale et à leur position politique. Ça permet aussi de donner une apparence journalistique à l'information. D'une certaine manière, ça protège les sites web. On ne peut pas les accuser directement de produire des fake news puisqu'ils effectuent simplement des reprises d'articles.
Mais du coup, je comprends pas bien. Concrètement, quand est-ce que l'information se transforme en outil de communication pour l'extrême droite ?
Alors ce travail éditorial, il se fait en fait dans le choix des informations publiées. On appelle ça le cadrage. Les sites publient majoritairement des informations en lien avec les thèmes traités par l'idéologie d'extrême droite, la hausse de l'immigration ou l'islam par exemple. Le site peut également choisir de mettre en avant des parties d'articles qui vont dans son sens. On va prendre un petit exemple. Quand France Inter titre « Un homme condamné à 6 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle d'une ex-Miss France au Festival d'Avignon », F de Souche annonce « Le migrant marocain soupçonné d'avoir agressé sexuellement l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani pendant le Festival d'Avignon, condamné à 6 mois de prison avec sursis. » Là, on voit bien que réécrire les titres et changer les tournures de phrases peut produire un effet complètement différent. En commençant par donner l'origine de l'agresseur, F de Souche indique que celle-ci jouerait peut-être un rôle dans le comportement de l'individu. Derrière une soi-disant objectivité, l'enjeu est donc principalement l'agencement de l'information. Il est construit de manière consciente pour orienter le lecteur vers une réalité biaisée.
Le choix du vocabulaire est donc important, j'imagine.
Effectivement, les sites de réinformation jouent aussi avec des choix sémantiques marqués. On peut reprendre l'exemple du nom F de Souche. Il renvoie à la fois au pseudonyme de son créateur François de Souche et à un jeu de mots autour de l'expression français de souche. Les mots choisis font donc souvent référence à l'idéologie d'extrême droite.
Il y a d'autres choses sur les sites de réinformation qui renvoient à une prise de parti politique ?
Oui, on peut penser par exemple aux publicités qui sont souvent orientées. On retrouve des renvois vers des livres de personnalités d'extrême droite. Ça reste sans doute quand même dans les espaces de commentaires et de discussions que l'idéologie est la plus visible. Pour se dédouaner, les plateformes précisent que seul l'auteur ou l'autrice est responsable de ses propos. Mais dans ces espaces, les articles servent en fait à lancer des débats orientés. Ce sont souvent des chats remplis de propos discriminatoires et d'incitations à la haine.
Et quel impact a la réinformation ?
Alors, selon les chercheuses Stéphanie Lukasik et Alexandra Salou, la réinformation correspond en réalité à une amplification socio-numérique de la désinformation. Il faut tout de même nuancer ce propos. L'impact de la réinformation est en fait, comme la plupart des informations, c'est un contenu qui est partagé entre des personnes qui ont déjà la même orientation politique. En clair, la diffusion, elle se fait surtout au sein d'une bulle informationnelle d'extrême droite. Même si ces contenus atteignent parfois des publics plus éloignés, en fait, ils servent avant tout comme des outils de mobilisation. Et elle permet de renforcer les convictions des sympathisants en diffusant une vision très orientée de la société. L'objectif, c'est de tenter d'influencer des personnes qui n'ont pas encore une position politique clairement affirmée.
Et pour ne pas se faire avoir, on le rappelle, il faut croiser ses sources d'informations. Merci, Léonore.
6 heures avant minuit.
C'est mardi et le mardi c'est chronique fake news. Cette semaine, on parle d'une épidémie d'infox liée à l'antivirus, Louise.
Effectivement, nous avons des complots mondiaux, un manque de sérieux des médecins face à une nouvelle épidémie, un nouveau coronavirus, le retour du confinement. L'antivirus a provoqué l'apparition de multiples affirmations effrayantes dans les médias et les réseaux sociaux. Aux États-Unis, par exemple, la sphère MAGA s'est engouffrée, sans surprise, dans le tourbillon d'un Fox. L'ancienne députée trumpiste Marjorie Taylor Greene parle d'armes biologiques développées par des laboratoires pharmaceutiques afin d'empoisonner la population avec leurs vaccins. Alex Jones, un animateur radio, adepte des théories du complot, parle lui de pandémie, une pandémie planifiée. D'après lui, je cite, « Ça recommence, ils veulent un confinement, ils veulent nous contrôler, ils veulent détruire l'économie. » Plus grave, et le très sérieux quotidien britannique The Guardian a aussi diffusé une infox. Une Française contaminée par l'antivirus aurait vu ses symptômes ignorés et mis sur le compte de l'anxiété par les médecins du MV Ondus. Ce récit complètement faux vit vite démenti par le journal, mais trop tard. Il a été repris sur les médias partout dans le monde. En effet, cette épidémie a provoqué un symptôme particulier, l'apparition de multiples fake news. Pour Yotam Ofir, un chef de laboratoire de recherche consacré à la désinformation à l'université américaine de Buffalo, dont les propos sont relayés par l'AFP, la résurrection presque immédiate des théories du complotisme de l'époque du Covid-19 rappelle, je cite, que la désinformation ne disparaît pas comme un enchantement lorsque la crise qui en est à l'origine est terminée.
Mais alors c'est quoi exactement cet antivirus, Louise ?
L'antivirus, il n'est pas nouveau et on le connaît depuis quelques temps. Virginie Sauvage, responsable du Centre national de référence de l'antivirus à l'Institut Pasteur de Paris, explique, je cite, « La Chine, la Russie et la Corée du Sud rapportent quelques milliers de cas par an, alors qu'en Amérique du Nord, centrale ou du Sud, en Finlande ou en France, on sait qu'on a quelques centaines de cas. L'antivirus, au cœur de l'actualité ces dernières semaines et apparu sur le bateau de croisière MV Ondus, lui provient d'une variante génétique très rare du virus nommée AND. » Il provient des antivirus présents sur le continent américain et se transmet d'humain à humain. Il s'attaque aux zones cardio-pulmonaires et comporte une longue période d'incubation jusqu'à 6 semaines. Taux de survie en cas de contamination, 50%. Sur le MV Ondus, il a fait 3 morts. Finalement, ce qu'on apprend de cet antivirus, c'est que Internet, lui, est bien capable de créer des virus idéologiques en un rien de temps. Comme un relent de cette période de Covid où à deux doigts de ressortir la chloroquine du garage, on a pendant 2 semaines été submergé de fake news alimentant les théories du complot contre une élite voulant nous contrôler.
Comment on peut expliquer toute cette désinformation, Louise ?
Tout d'abord, par les virus, ou plus largement la zone d'ignorance les concernant. La majorité des citoyens et citoyennes n'ont pas de connaissances poussées sur le domaine de la médecine, de la biologie ou de l'épidémiologie. Et cette zone d'ignorance, elle permet à n'importe qui de donner sa propre explication et d'être pris au sérieux. Il y a aussi le souvenir du Covid et à la rapidité à laquelle il s'est imposé dans nos vies. Le Covid et l'antivirus sont deux virus différents, mais ils ont des similitudes. Ils proviennent de souches rares et peuvent se propager rapidement dans le monde entier. Le plus grave, c'est pas forcément la fausse information en elle-même, c'est les conséquences qu'elle a à long terme. La méfiance envers les médias et les institutions, et le doute envers les autorités médicales et les nécessités de se soigner.
Merci beaucoup, Louise.
6 heures avant minuit.
Si vous nous écoutez toutes les semaines, vous savez que le mardi, c'est Chronique Fake News. Cette semaine, on parle d'une épidémie d'infox qui s'attaque au top 14 avec Solène, une nouvelle voix dans 6 heures avant minuit.
Vous saviez que l'ancien troisième ligne de Montpellier et du 15 de France, Fulgence Ouédraogo, est atteint d'un cancer et que François Trinduc est décédé?
Non.
Ou encore que Sébastien Picroni a attaqué en justice le présentateur du JT de TF1, Gilles Boulot?
C'est pas vrai.
C'est en tout cas ce qui affole les réseaux sociaux en ce moment. Ces dernières semaines, les pages Facebook diffusant de fausses informations à grands coups d'IA sur les équipes du top 14 se multiplient. Des décès de joueurs, des incendies de stades, des tensions au sein de clubs. Peut-être même êtes-vous tombé sur ces pages arborant les couleurs de l'ASM Clermont ou du Montpellier Hero Rugby, présentant des photos de bagarres qui auraient éclaté en tribune. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut voir que le logo ne correspond pas. Plus flagrant encore, ce sont les mêmes photos simplement copiées-collées d'une page à l'autre. D'après Midi Libre, les fausses accusations concernant le club de Montpellier seraient parties d'une page Facebook créée le 22 avril, et avec 3 à 4 publications par jour, le compte n'épargne personne. Les joueurs comme les membres des clubs passent leur temps à démentir les rumeurs. C'est notamment le cas de l'ancien capitaine Fulgence Ouédraogo qui a vu passer plusieurs fausses informations le concernant.
Il est marqué que je suis atteint d'un cancer. Il y en a une autre, c'était sur le fait que je suis apparemment pas le père de mes enfants. Et le dernier en date, c'est que j'ai eu un accident de voiture avec l'ensemble de ma famille. tous les jours, je dois répondre à je sais pas combien de messages pour dire que non, tout va bien, que c'est des fausses nouvelles, que je vais très bien et que ma famille va très bien. Donc bon.
Il s'est également exprimé pour dire, je cite, « On sait que c'est n'importe quoi, alors on s'en fout, mais c'est problématique quand nos proches ou les gens qu'on connaît commencent à s'inquiéter. » Et ces comptes ne font pas que propager de fausses informations, ils vont jusqu'à inventer de fausses déclarations. Le média Actu Rugby a contacté le responsable presse et communication de l'ASM, Vincent Duvivier, après s'être, je cite, « retrouvé circonspect devant un article annonçant qu'Étienne Falgou, Thibault Lanen et Giorgi Akaladze avaient été suspendus après une sortie nocturne. » Là encore, il s'agit d'une fake news. Mais cette fois, des propos de l'entraîneur Christophe Urios étayaient le papier. Problème, eux aussi sont faux, ils ont été écrits par l'IA.
Et aucune mesure n'a été prise contre ces comptes, Solène ?
Alors, la Ligue nationale de rugby a signalé les comptes frauduleux auprès de Meta, la maison mère de Facebook, mais la plupart des comptes sont cependant toujours actifs ou réapparaissent sous un autre nom, sitôt supprimé. Ça atteint directement notre image de marque, la gestion globale du club, ça diffuse de fausses informations sur le plan sportif et donc ça dessert par écoulement l'ensemble du club, déplore Yanis Dominguez, le responsable communication et marketing du Montpellier Hero Rugby. Et derrière ces pages Facebook mensongères se cachent des administrateurs situés au Vietnam ou au Pérou. Pour l'expert en IA Victor Besset, il s'agit simplement d'une arnaque dans le but de générer un maximum de clics. Le but, c'est de ramener du trafic et le trafic permet d'afficher des pubs et les pubs vont permettre de les rémunérer, a-t-il livré au micro de France 2. L'objectif de ces fausses informations est clair, jouer sur les émotions pour inciter les lecteurs à cliquer sur le lien pour lire l'article en entier. Ce lien a été testé par des outils d'analyse numérique. Il en est ressorti dans l'article du Midi Libre que l'adresse est fichée comme suspecte, reliée à des extensions préoccupantes et des noms de domaines obscurs et générés automatiquement.
C'était la chronique fake news de Solène, merci à toi.
6 heures avant minuit.
On passe à la chronique, le mardi c'est chronique fake news et aujourd'hui on va parler de la guerre au Moyen-Orient avec Aïza.
Oui parce que face à une escalade de
On t'entend pas. 1, 2, le micro, c'est bon, vas-y on t'écoute.
Face à une escalade de la violence, les deux parties essayent d'imposer leur récit et la guerre entre le Liban et Israël n'y fait pas exception. À Yarun, au Liban, début mai, l'Agence nationale d'information libanaise annonce la destruction du monastère et de l'école des Sœurs de Sacré-Cœur, ainsi qu'une, je cite, « série d'opérations de bombardement et de démolition qui ont ciblé des maisons, des magasins, des routes et divers points de repère dans la ville ». Dans un premier temps, l'armée israélienne nie avoir détruit le couvent et son école, affirmant avoir visé une infrastructure terroriste du Hezbollah. Plus tard, elle reconnaît que ses forces ont endommagé l'une des maisons situées sur un site religieux de Yarun, tout en déclarant sur X qu'il n'y avait aucun signe visible indiquant qu'il s'agissait d'un bâtiment religieux. Sur le site officiel de X, Israël qualifie la destruction de fake news en assurant que le site est intact et en sécurité, le tout suivi du partage d'une photo d'un bâtiment à toiture rouge, laissant entendre qu'il s'agirait d'un couvent et que ce dernier serait intact ou du moins toujours debout. Mais voilà, des journalistes locaux et internationaux ont mené l'enquête. En collectant des vidéos amateurs et en comparant les images, il et elle ont pu l'affirmer, le bâtiment sur la photo partagée par le pouvoir israélien n'est pas le couvent de Yarun. Il se situe bel et bien dans le même complexe selon l'AFP, mais il s'agit en réalité d'un espace de centre médico-social géré par les sœurs. Et les images satellites confirment elles aussi que la destruction du site aurait eu lieu entre avril et début mai 2026, ainsi que plusieurs autres lieux qui auraient été touchés.
Et ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne vise des lieux religieux et le village aux abords de la frontière israélienne subit régulièrement des attaques de la part de l'État hébreu. Merci Aïza.
Merci.
6 heures avant minuit.
Le mardi, c'est Chronique Fake News dans 6 heures avant minuit et ce soir, c'est Anna qui nous parle d'une infox.
L'OMS injecte aux enfants un produit qui rend stérile. Cette rumeur, des milliers de parents zimbabwéens la lisent en ce moment sur TikTok et Facebook. Elle est fausse, bien évidemment, mais elle tourne en boucle portée par des comptes très suivis à chaque fois qu'une campagne de vaccination est annoncée. Alors le Zimbabwe a décidé de riposter en février 2026 avec une application mobile.
C'est quoi exactement cette application ?
Elle s'appelle Rere Mtuana et signifie « élever les enfants », une expression issue du Shona et du Ndebele, les deux langues nationales. C'est une adaptation locale d'un outil créé par l'UNICEF, déjà utilisé dans une quinzaine de pays en Europe et en Asie, avec plus d'un million d'utilisateurs. Le Zimbabwe est le premier pays africain à s'en emparer. Concrètement, un carnet de santé numérique, des rappels de vaccination, des conseils de nutrition, un suivi des étapes de développement de l'enfant. Elle fonctionne hors connexion, ce qui n'est pas un détail dans un pays où l'accès à Internet reste inégal. Et elle est disponible en trois langues, l'anglais, le Shona et le Ndebele.
Mais pourquoi une appli plutôt que, je sais pas, des campagnes d'information classiques ?
Eh bien parce que la désinformation est déjà sur les téléphones. L'idée est venue à une chargée de nutrition du ministère de la Santé, Shishikanda, après avoir vu en 2025 une influenceuse vanter les mérites d'un lait infantile en poudre plutôt que l'allaitement maternel. L'argument donné par l'influenceuse, ça ferait moins vieillir. Une aberration médicale servie comme un conseil beauté et vue par des millions de personnes. Mais derrière cet outil pratique, l'intention du gouvernement est claire, contrer la désinformation sanitaire en ligne.
Alors vu par des milliers de personnes, pas des millions, mais pourquoi ce problème est-il primordial au Zimbabwe ?
Le taux d'allaitement maternel est de 42%, en deçà de l'objectif de 50% prôné par l'OMS. Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans a grimpé de 23,5% en 2019 à 27% en 2025. Dans ce contexte, une fake news sur les vaccins ou sur l'alimentation infantile peut avoir des conséquences directes sur des vies. Et d'ailleurs, la désinformation sanitaire n'est pas un phénomène limité aux pays du Sud. En France aussi, à chaque campagne vaccinale, les mêmes rumeurs resurgissent, les mêmes accusations contre l'OMS, les mêmes théories complotistes recyclées. Ce qui est intéressant dans l'approche zimbabwéenne, c'est le choix du terrain. Plutôt que démentir les fake news après coup, l'idée c'est d'aller chercher les parents sur leur téléphone et de leur proposer une information fiable et utilisable au quotidien. En ne donnant pas un fact-check aride, mais plutôt une recette de légumes, un rappel de rendez-vous médical.
L'idée est bonne, mais est-ce que cette application fonctionne ?
Pour l'instant, l'application compte 6000 téléchargements Zimbabwe. À l'échelle mondiale, l'UNICEF note que seulement 5% des utilisatrices et utilisateurs restent actifs sur le long terme. Il est difficile de changer des habitudes qui sont parfois ancrées depuis longtemps. Et puis, les conditions parfois précaires des habitantes et habitants posent des défis difficiles à dépasser. Une mauvaise connexion Internet, des zones rurales mal desservies, des habitudes alimentaires liées à un pouvoir d'achat faible.
C'était la chronique Fake News signée Anna ce soir.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.